Le masque sans la plume.
Je vais aller voir Le garçon et le héron, qui est le dernier film d'Hayao Miyazaki, qui raconte en gros l'histoire d'un petit garçon qui voit sa mère mourir dans un incendie au début du film, et qui du coup déménage avec son père à la campagne, dans un manoir qui appartient à sa famille, et dans lequel il fait la rencontre d'un héron, un peu bizarre, un peu surnaturel, qui le stalk globalement, et de fil en aiguille, ça va l'amener à faire des découvertes un peu surnaturelles, qui vont remettre en cause ses perceptions de la vie, de la mort de ses parents. Donc c'est un film très perché, que globalement j'ai pas trop aimé. Le film est quand même globalement divisé en deux parties. La première qui est assez réaliste, où ils sont donc dans le manoir, il y a cet enfant qui apprend à vivre avec son père sans sa mère, mais avec une nouvelle mère qui est la petite sœur de sa mère, mais qui est aussi la meuf de son père. Déjà, la famille est un peu fucked up, et qui apprend à vivre dans ce nouvel environnement qui est un peu étrange, mais globalement réaliste. Et puis à un moment, le film part complètement dans un autre univers, dans un monde à moitié fantastique, où il y a des bateaux, des perruches, des éléments métaphysiques, des vieux fous. Enfin, c'est très perturbant. Et le film est globalement très beau. Alors ça, c'est quand même une qualité qui est commune à tous les films de Miyazaki. Mais par contre, sur le sens, il m'a quand même complètement perdu. En fait, toute la deuxième moitié du film est très métaphorique. J'en ai certaines pour les grandes lignes, des métaphores, mais il y en a... Je suis passé complètement à côté. Alors j'ai lu plein de trucs sur le film après, comme quoi ça parlait de plein d'éléments de la vie de Miyazaki, que ça faisait référence à plein de ses anciens films, sauf que bah, je savais pas que j'avais besoin de faire mes devoirs hein, en fait avant d'aller voir le film. Quoi. Si j'avais su, j'aurais révisé. Je serais arrivé après avoir lu mon petit Miyazaki pour les nuls. Sauf que moi j'ai seul l'élément dans les poches et du coup j'ai passé une heure et demie à ne pas comprendre ce que j'avais sur mon écran. Donc c'était un peu perturbant quoi. Je me dis que peut-être il avait pas un peu trop abusé du saké pendant l'écriture quoi. Le seul personnage dont je peux parler, c'est le héron, qui a l'air tout beau, tout gentil sur les affiches du film. Donc c'est très trompeur, parce que il a un peu une double face beaucoup plus sombre. Et je pense même que, concrètement, en fait, tu dois pas aller voir le film avec tes enfants si t'en as, parce que le héron peut faire des cauchemars, quoi. C'est-à-dire que après, je pense que tu croises des pigeons dans la rue, tu changes de trottoir, ce genre de truc. Hein. Il est vraiment terrifiant, il a un arc narratif très bizarre, en plus. Mais ouais, je pense que ça a changé complètement ma perception d'animal pour le futur, quoi. Je pense que je verrai plus jamais les hérons du même œil. Je donnerai au film la note de 2. 2 comme le nombre d'heures que j'ai passées au cinéma, et elles étaient toutes les deux très longues. Je suis désolé, parce que je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont écouter et qui auront bien aimé le film, mais vraiment, je suis passé complètement à côté, quoi. Je m'excuse, je reviendrai plus fort la prochaine fois.
Je suis allé voir L'Abbé Pierre, une vie de combat, réalisé par Frédéric Tellier. Un film porté par Emmanuel Berco, qui joue Lucie Coutaz, hein, la BFF de l'Abbé, celle qui le porte pendant tout le film. Et bien sûr, Benjamin Laverne, qu'on a pu voir, entre autres, dans Le Sens de la Fête, où il jouait un connard méprisant qui pense qu'à sa gueule. Tout l'inverse, donc, du rôle de ce film. L'Abbé Pierre, une vie de combat, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est la vie de l'Abbé Pierre. De son moment où il rejoint les Capucins, dans la fin des années 30, et puis curé au moment de la Seconde Guerre mondiale, où il est réquisitionné pour aller au front, puis résistant. On voit l'abbé Pierre dans le maquis à organiser la résistance, hein, l'abbé Pierre avec un gun, enfin bref, il fait tout. Puis après, ça continue, il fait de la politique, il crée des structures d'accueil, bref, le gars est partout. Il fonde avec Lucie Coutaz, hein, qu'il a rencontré pendant la guerre, hein. En gros, il rencontre cette meuf qui va l'aider, il arrive, il lui fait « Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri ». Henri Groès, son nom bien sûr, elle l'aide, et puis jusqu'à la fin de sa vie, elle va le suivre dans son aventure. C'est vraiment sa gossure. D'ailleurs, le film aurait même pu s'appeler L'Abbé Pierre et Lucie Coutaz, hein, tellement genre, on se rend compte que sans elle, le gars, il est paumé. Hein. Ses tribulations médiatiques, on le voit partout, le gars c'est vraiment une bête de show business à faire des discours, il fait des salles complètes, alors on n'est pas sur l'Accor Hotel Arena, mais quand même, on est sur une vraie bête de scène, et oui, effectivement, ça fait toujours plaisir le moment où il dit « ta gueule à Jean-Marie Le Pen », ça aussi c'était quand même plutôt kiffant. Alors la prestation de Benjamin Laverne, je la trouve incroyable. Le gars arrive à faire l'abbé Pierre à toutes les périodes de sa vie. Beaucoup de maquillage, hein, bien sûr, sur la fin. Et le voir interpréter si bien, alors dans la gestuelle, dans les mimiques, dans le ton, dans la voix. On n'est pas sur une interprétation à la guignole. Il va pas arriver en disant « c'est pas possible ». Enfin, je vais pas faire l'imitation parce que j'arriverai pas à la faire, mais il a le rôle, il a le personnage du début jusqu'à la fin, et je trouve que c'est un acteur qui l'interprète formidablement bien. comme je ne suis pas non plus un expert sur la vie de l'abbé Pierre, hein, je n'avais pas trop de connaissances plus approfondies de sa vie. J'ai quand même regardé sa fiche Wikipédia avant de voir le film. Et effectivement, en regardant le film, je me disais, tiens, ça me rappelle vachement ça dans la fiche. Tiens, c'est vraiment dans le bon ordre. Ce qui, moi, perso, ne m'a pas trop dérangé. La construction du film, elle est chronologique, elle est linéaire, elle est simple. Mais pour moi, ça ne gâche pas l'esprit du film. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'abbé Pierre, c'est pas un film catho. En vrai, c'est juste un film humaniste. C'est un beau biopic, un film sincère, généreux. Est-ce que j'en peux mettre 4,5? Allez, je lui mets 4,5.
J'ai été voir Simple comme Sylvain au cinéma, qui est un film de Monia Chokri, qui est canadienne. Le film parle d'une histoire d'amour, d'une nana qui a à peu près 40 ans, qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre que son mec, qui est pas du tout son type habituel. Et donc ça parle pas mal de différences de classe sociale, et qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le désir. Du coup, on suit cette dame, j'ai complètement oublié son prénom, qui est en relation amoureuse avec un type. Il est chercheur, elle aussi, ils ont pas d'enfants. On les voit au début, ils vont chacun se coucher dans un lit séparé. Ils ont des grosses discussions philosophiques. Ils ont l'air d'être bien, ils ont l'air d'être un peu boring. Et en fait, cette nana, qui est chercheuse en philosophie, philosophie de l'amour même, je dirais, elle va dans leur chalet, parce qu'évidemment, c'est un couple qui a l'air quand même de la classe plutôt supérieure et qui a un chalet un peu dans la forêt. Et elle va dans le chalet une journée pour recevoir le réparateur, parce qu'il y a un mec qui vient faire des travaux chez eux. Et en fait, débarque un mec qui s'appelle Sylvain, d'où le titre, subtil. Et Sylvain, en fait, c'est un gros beau gosse, un peu rustre, avec une chemise à carreaux, une petite casquette. Et puis en fait, ben, c'est un peu le coup de foot, quoi. Enfin, le coup de foot, je sais pas, mais elle a clairement beaucoup envie de le ken. On va commencer à suivre, du coup, cette petite obsession qu'elle développe pour lui. Sauf qu'il est très sexy et un peu rustre, mais en fait, il pourrait être catégorisé comme un peu un beauf, quoi. Par exemple, il y a une scène où il lui dit qu'il ne peut pas se passer d'elle, que ça va devenir sa femme, et il lui récite une sorte de poème. Et elle dit oh, « on dirait du Rimbaud ». Et ce à quoi il répond « c'est Michel Sardou ». Enfin, un prom doc, quoi. Et ça donne des scènes qui sont drôles, parce qu'en fait, la réalisatrice, elle se moque autant du milieu social des Sylvains et de ce côté un peu beauf, où il va raconter des énormités. À un moment donné, il y a un repas de famille, du coup, chez lui, où en fait, il y a des grosses punchlines racistes, la mère boit du rosé dégueulasse. Et en fait, de l'autre côté, on voit aussi son milieu à elle, qui est extrêmement caricatural. Son frère est un gros débilos qui fait de l'art moderne et qui ramène une nouvelle poule à chaque fois qui a l'air complètement chelou. Leur couple de potes, ils s'engueulent à 24, ils se trompent. Ça n'a pas non plus l'air d'être beaucoup plus sympa en fait que le repas de famille où Jessica et Kevin boivent des bières en canette, quoi. Donc voilà, ça tape un peu sur les deux côtés. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut former un couple avec autant de différences en fait ? Mais en fait, c'est quand même cool que même au Canada, Michel Sardou soit vu comme quelqu'un de beauf et de droite. Spéciale dédicace à Clara Luciani, quoi. Ah, c'est Juliette Armanet. Bon, spéciale dédicace à Juliette Armanet. On t'aime, tu n'es pas seule. Ah oui, je voulais dire aussi la vision, on est tous le beauf de quelqu'un. Il y a elle qui considère son mec Sylvain comme un beauf. Mais quand on va dans la famille de Sylvain, en fait, tout le monde fait que dire « Ah, mais Sylvain, c'est le plus intelligent de la famille. » Et donc, c'est un peu marrant d'avoir ce rapport-là de « on est tous le plus beauf de quelqu'un. » Quelqu'un portera toujours des claquettes qu'on trouvera les plus immondes les unes que les autres, quoi, en gros. Franchement, moi, je mets 4 étoiles. Genre, j'ai vraiment, vraiment aimé le film. En plus, ils ont réussi à nous faire, nous, Français, peut-être réaimer la musique de Scorpion, Still Loving You. Ils se font une espèce de slow qui est censée être une scène un peu mimes. En fait, derrière, t'as le refrain de Scorpion qui est en train de dire « Ce soir, j'ai les pieds qui puent ». Voilà. Voilà, franchement. Non, mais je pense que tout le monde a pensé à la même chose. Allez sur Google, tapez « Scorpion, j'ai les pieds qui puent » et vous allez comprendre de quoi on parle, quoi. Je me rappelle pas de l'extrait de la chanson de Sardou, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le réciter.